Hier, il y a eu deux, trois petits. Hier, ça m'a un petit peu troublé. Bref, je vais le mettre là. Merci beaucoup pour cette louange. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite annonce. Daniel a amené des quarts d'heure pour aujourd'hui, des quarts d'heure pour l'essentiel. Donc n'hésitez pas à en prendre, il y en a à peu près 5-10 à l'entrée sur la table en verre. Donc il est vraiment bien, moi j'ai déjà feuilleté, c'est une très bonne édition. Et beaucoup d'entre vous ont aussi contribué financièrement à ce qu'il soit distribué à tous les habitants d'Échandon et environ. Donc soyez aussi remerciés. Donc, je le mets de côté. Je vous propose de prier pour... commencer. C'est vrai, Seigneur, merci de ce privilège que nous avons aujourd'hui encore de pouvoir venir vers toi, venir dans ta présence, Seigneur. Et c'est vrai, tu es ce Dieu qui parle, tu as un Dieu qui parle, tu es ce Dieu qui nous voit, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous ne sommes jamais hors de ta portée, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence à ce que tu veux nous dire à travers ta parole. Ce matin, Seigneur, je prie que tu puisses venir m'inspirer, me donner les bons mots. Amen. Quel dimanche sommes-nous aujourd'hui? En français, la jeune. Ouais. Le dimanche des rameaux? Mais oui, Palm Sunday. Exactement. Et j'hésitais au début à faire un message sur le dimanche des rameaux. Je dis, dimanche prochain, je ferai déjà aussi un autre message. Aussi, je ne sais pas de quoi Ours va parler, mais peut-être qu'il va s'aborder un peu. Donc. Mais c'est intéressant d'avoir aussi une idée en tête que là, on arrive dans la dernière semaine avant la passion du Christ. C'est aussi cette montée où Jésus monte à Jérusalem. C'est intéressant si on regarde les évangiles, dans la structure des évangiles, où on voit... que les évangiles sont structurés d'une certaine manière. Par exemple, l'évangile de Luc, si vous regardez tout le début de l'évangile de Luc, Jésus est en Galilée. Puis à un moment donné, vers le chapitre 9, 52, tout à la fin du chapitre 9, tout d'un coup, Jésus il dit à ses disciples, montons à Jérusalem. Et des premiers chapitres jusqu'au verset de chapitre 9, en fait, Jésus il est en Galilée. Donc Luc a structuré son évangile de telle manière qu'il y a une montée à Jérusalem. C'est assez surprenant. Puis après, donc, à partir du chapitre 9, Jésus est là à Jérusalem, puis il y a plusieurs confrontations avec les responsables, mais on voit vraiment une progression. Et l'arrivée de Jésus à Jérusalem est vraiment un moment charnière dans les évangiles. C'est vraiment ce moment-là qui ouvre toute la passion du Christ, la semaine sainte, comme on l'appelle. Je pense aussi à un bon rappel. C'est-à-dire que voilà, dans l'année liturgique, aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux, on arrive aussi avec la fin de carême, du carême. Beaucoup de gens font carême. Tu parlais ce matin, là, dans ton introduction aussi, du smartphone. Et j'ai plusieurs amis qui, pendant le carême, pendant les 40 jours de carême, on dit je fais 40 jours sans Instagram, sans Instagram ou Facebook. Puis c'est intéressant parce que voilà, c'est 40 jours où je ne me connecte pas. C'est 40 jours où moi je leur envoie des petites bêtises sur Internet puis ils ne répondent pas. Donc, un petit côté un peu frustrant. Puis après, je pense que quand ils vont se devoir se connecter, ils auront je ne sais pas combien de notifications de ma part. Bref. Mais ça, c'est intéressant. Moi, j'ai aussi d'autres amis qui, pendant ces 40 jours, ne boivent pas d'alcool. Ils disent, je fais 40 jours sans alcool, c'est un peu frustrant. Parce que tu vois, tu fais un apéro chez eux puis ils disent, moi je prends du jus d'orange, je prends un verre d'eau. C'est intéressant aussi, je trouve intéressant de dire, même si moi, j'essaie aussi de diminuer, de me confronter aussi dans ma relation à l'alcool par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à d'autres sujets, je dis, c'est vrai, des fois, nos choix ont aussi des conséquences qui nous dépassent. Et c'est vrai, ce matin, je vais aussi parler d'une faim. On a parlé, ce matin, tu parlais des fois quand on se lève, on prend le café. Et c'est vrai, moi, j'aime bien me lever et prendre mon petit café. C'est vrai, quelle est ma nourriture spirituelle? Quelle est aussi ma faim spirituelle? Est-ce que je peux passer une journée sans boire de café? Est-ce que je peux passer une journée sans lire la Bible? Est-ce que je peux passer une journée sans regarder mon smartphone? Est-ce que je peux passer une journée sans, je sais pas, aller voir les news, les nouvelles, la bourse, aller voir le foot, regarder je ne sais pas quoi, n'importe quoi qui nous occupe? Et c'est aussi une question que je me pose. Le message de ce matin, ce sera à peu près en trois parties. Une première partie un peu sur la famine, deuxième partie un peu sur la faim. Et la troisième partie, ce sera aussi un temps de prière par petits groupes. Je crois que c'est aussi bien par rapport à ce qui a été vécu hier, donc on puisse aussi prendre un moment de prière les uns pour les autres. Quo vadis, Domine, c'est du latin. Où vas-tu, Seigneur? Cette parole n'est pas biblique, donc ça enlève déjà le suspense. C'est dans les apocryphes, dans l'évangile de Pierre. À un moment donné, Pierre, il est à Rome, puis il y a Jésus qui lui apparaît avec la croix sur l'épaule. Et puis Pierre demande à Jésus, « Où vas-tu, Seigneur ?» Donc, « Quo vadis, Domine, où vas-tu, Seigneur ?» comme l'a aussi rappelé François. Et puis, d'une certaine manière, Jésus dit, alors c'est vraiment assez apocryphe, donc ce n'est pas biblique, il dit, « Je vais à Rome me faire crucifier une deuxième fois. » Puis Pierre comprend qu'il est aussi de nouveau pris de remords, et puis ça inaugure aussi le martyr de Pierre à Rome. Donc voilà, l'histoire, le contexte un peu moyennement chrétien, moyennement théologique. Mais cette question, où vas-tu, Seigneur? Moi, je me pose souvent, je me dis, Seigneur, mais où vas-tu? Où vas-tu? Des fois, on voit les évangiles, du coup, Jésus, il a un endroit, du coup, il part, puis il va ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Même avec la femme samaritaine. Il voit la femme samaritaine, il va à Samarie, il y a plein de miracles, de guérisons, de conversions. Et puis d'un coup, je dis, reste là, Jésus, reste là une, deux semaines, et puis fais pas mal de disciples en Samarie. Puis, d'un coup, Jésus, il dit, je crois qu'il reste trois jours, puis après, il part. Puis, Seigneur, c'était l'occasion, là. Puis il y a eu beaucoup de Samaritains qui l'ont suivi, qui l'ont écouté. Donc le ministère de Jésus à travers la femme samaritaine a été riche. Mais d'un coup, Jésus, il part. Et souvent, on voit Jésus qui part, qui vient. Puis c'est dur d'anticiper ce que Jésus est en train de faire, un peu comme une partie d'échec où des fois, Jésus il a toujours un, deux coups d'avance. Des fois, on a de la peine à le suivre. Et je trouve intéressant dans les évangiles de se poser des questions. Pourquoi d'un coup, Jésus il part? Pourquoi il reste? Quel était son agenda? Quel était un peu son planning? Puis, des fois, je serais resté. Des fois, il y a des endroits où il va où je ne serais pas allé. Parce que c'est un peu un piège. Et Jésus y allait pourtant. Et des fois, je me dis, dans nos vies, dans l'Église, dans la société, où vas-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, toute cette thématique, je l'aborderai tout à la fin, mais c'est un petit peu un petit aparté. Quelle est notre faim? Quel est un peu notre rapport à la nourriture et d'une certaine manière aussi à l'absence de nourriture? Et c'est vrai, d'une certaine manière, nous devons manger pour vivre. Si nous ne mangeons pas, nous mourons. Et l'absence de nourriture est aussi un signe de mort. Et peut-être de notre société où nous avons tout dans les magasins, tout à disposition, des fois cette question-là nous passe un peu par-dessus la tête, que nous ne sommes pas confrontés à cette question-là. Mais sortez de Suisse, sortez d'Europe et de d'autres pays, donc il y a des mauvaises récoltes. Et c'est embêtant, et les gens sont beaucoup plus tributaires, si on veut, du sol, de la nature, de l'agriculture que nous le sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui on veut, je sais pas, on veut un aliment qu'on n'a pas dans un magasin, on va dans l'autre magasin, puis il y a de fortes chances que nous puissions le trouver en quantité raisonnable. Il n'y a plus de farine à un endroit, pas de souci, je vais dans un autre magasin, puis j'achète mes 10 kilos de farine. Et je veux dire, indépendamment de cette nourriture physique, dans une deuxième partie, on va aussi discuter de cette nourriture spirituelle, de cette faim, de cette soif spirituelle. Je voudrais commencer par ce premier texte, que l'on trouve dans Genèse 10, 12. Désolé, je t'ai dit Genèse 12, 10 à Johanna, je me suis trompé sur mes notes. Genèse 10, 12. Et moi, ce texte m'interpelle. C'est vrai, on est au début, d'une certaine manière, de l'histoire de la création. La chute, Genèse 3, après on a Noé, Genèse 6, etc. Après on continue Genèse 8, 9. Puis là on est déjà au tout début. Et il y a déjà une famine. Donc, comme quoi, la thématique de la famine est déjà très présente dans la Genèse. Dès les origines, on a déjà les problèmes de la famine. Je vais vous lire ce texte. Une famine survint dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, « C'est sa femme, ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » Ce texte m'interpelle pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a Abraham, plus tard qui sera Abraham. Abraham est un ami de Dieu, un homme juste, un homme intègre, un homme qui a quitté sa patrie, quitté sa famille à Ur en Chaldée, se retrouve dans un territoire quelque peu hostile, dans une terre qui n'est pas la sienne, dans une contrée qu'il ne connaît pas. Il est étranger, immigré en Canaan. Il y a une famine. Dieu permet qu'Abraham soit confronté à une famine. Le texte ne dit pas « Abraham pria et Dieu envoya la pluie » ou « Dieu multiplia ses récoltes ». Non, il y a une famine. Et Abraham doit partir. Abraham doit partir. Il doit aller dans un autre pays où il est encore plus étranger, l'Égypte. Et Abraham a peur. Il dit à sa femme, ben, « dis pas que tu es ma femme, parce que sinon je vais me faire tuer, mais dis que tu es ma sœur. » Et là, on voit que c'est un demi-mensonge. C'est un mensonge parce que Sarai est son épouse. D'une certaine manière, il arrive à contourner en disant « Oui, mais on a le même père, mais on n'a pas la même mère, donc ça va, on est demi-sœur. » Donc, c'est un demi-mensonge pour essayer de s'en tirer. Mais on voit qu'Abraham a aussi peur. Et c'est une situation délicate où on voit que même ce Abraham, qui est le père de la foi, ben, on voit que des fois, il est un peu margoulin. Et je pense qu'on le serait aussi d'une certaine manière. Et je trouve que ça montre une vraie honnêteté qu'Abraham restait un être humain avec ses côtés un peu cachés, ses côtés un peu obscurs. Et si on continue un peu plus loin, on a de nouveau ce texte. Je ne vais pas le lire complètement, mais on voit que Isaac est aussi confronté à une famine. Il y a une deuxième famine. Et là, c'est intéressant, c'est marqué. En effet, l'Éternel qui lui est apparu et lui avait dit, ne descends pas en Égypte. Fixe-toi dans le pays que je te désigne. Là, on pourrait se poser la question. Je n'ai pas la réponse. Dans le texte qu'on a lu avant, absolument. Dans le texte d'Abraham, ce n'est pas marqué que Dieu dit à Abraham d'aller en Égypte. Abraham va en Égypte, mais ce n'est pas marqué que Dieu lui dit d'aller en Égypte. Est-ce qu'il aurait dû aller en Égypte? Est-ce qu'il aurait dû aller ailleurs? Est-ce qu'il aurait dû rester? Je ne sais pas, je ne veux pas faire des spéculations. Mais c'est intéressant, dans le texte d'Isaac, c'est Dieu qui lui dit de ne pas aller en Égypte. Mais il y a aussi une famine. Il lui dit d'aller... il va vers Abimelech, qui est le roi des Philistins, c'est une autre région. En tout cas, Dieu lui dit expressément de ne pas aller en Égypte. On va prendre un troisième texte, qui est aussi connu. Et là, rebelote. De nouveau, une famine. La famine sévissait de plus en plus durement dans le pays quand la famille de Jacob eut mangé tout le blé rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez là-bas pour nous racheter un peu de vivres. » Et c'est intéressant, moi ça m'interpelle de voir les trois patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les trois patriarches sont confrontés à la famine. Leur vie, d'une certaine manière, est compromise. À l'époque, une période de famine était aussi une période, d'une certaine manière, de mort, de danger. S'il n'y a rien à manger, le bétail ne peut pas manger, les gens ne peuvent pas manger, les gens meurent. Je ne sais pas quand on remonte la dernière famine en Suisse, mais même, je pense que personne dans cette salle ne l'a vécu. Peut-être, je ne pense pas que vos parents non plus l'ont vécu. Certainement qu'après la Deuxième Guerre, il y avait des périodes difficiles de restrictions, mais de famine, famine. Donc on ne peut pas dire que ah, on a connu la famine, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire, qui fait partie de quelque chose de familial. Et là, on voit que les trois patriarches, coup sur coup, sont confrontés à la famine. Et pourtant, Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob ». Dieu permet les famines et les situations de crise. Je pense que c'est dans ces situations de crise, dans ces situations difficiles, que qui nous sommes réellement se manifeste. Abraham, c'est quand il est en Égypte, c'est quand il est confronté à Pharaon, qu'il dit à sa femme, bah, « Dis que tu es ma sœur ». Jacob aussi, c'est des périodes difficiles, Isaac aussi. Quand on voit aussi les fils de Jacob qui vont, après avec l'histoire aussi avec Joseph, où on voit que c'est une situation délicate, parce qu'on est tributaire du bon vouloir, de la générosité des autres. Il y a une route à faire, il faut renoncer à sa famille. C'est une porte ouverte vers l'inconnu. Je vais aussi un peu m'arrêter là par rapport à la famine, mais on voit aussi dans d'autres textes de l'Ancien Testament, il y a des famines. Du temps d'Élie, où pendant 3 ans ou 3 ans et demi, il n'a pas plu. On a eu des canicules, on a eu des périodes de sécheresse où on avait moins à manger, il y avait le prix de l'huile de tournesol a augmenté, certaines denrées ont augmenté. Et là, c'était quelques mois, c'était un été, une période, une saison. D'un coup, 3 ans et demi sans pluie, ben les réserves commencent à fortement diminuer. Et pourtant, Dieu le permet. Dieu le permet. Et des fois, je n'ai pas la réponse. J'aimerais dire, c'est un peu comme dans les plaies d'Égypte, où il y a les Égyptiens qui subissent les plaies, puis le peuple d'Israël, ils sont épargnés, ils sont un peu comme dans une cloche, et puis non, ils sont épargnés, invincibles. Puis non, et non. Abraham a connu la famine. Isaac, Jacob ont connu la famine, ont connu, j'ai perdu la connexion, ont connu l'exil. Ils ont dû quitter leur pays, quitter leur famille, quitter leurs racines, parce qu'il y a une situation qui les dépassait. Allons maintenant avec un autre texte du Nouveau Testament, qui sera mon seul texte aussi sur la faim, sur la famine, mais qui est pour moi un texte aussi intéressant. C'est cette parabole du fils prodigue. C'est une parabole tellement riche qu'on trouve dans Luc 15. Ce sera particulièrement le verset 14, j'ai mis le verset 13, 14 et 15. On a ce père qui a 2 fils, et on a le deuxième des fils qui dit « Papa, t'es bien sympa, je t'aime beaucoup, mais donne-moi la moitié, donne-moi ce qui me revient. » C'est quand même terrible, cette situation. Le papa dit « Ok, tu veux la moitié, ben tiens, ou je ne sais pas comment c'était réparti, mais en gros, tiens ta part. » Je pense que le père est embêté. Imaginez un agriculteur, je ne sais pas si c'est des agriculteurs, il y a une ferme, un domaine, des champs, etc., du matériel, du bétail. C'est difficile de diviser. Si j'ai 10 millions en cash à la banque, supposons que je fasse 50-50, 5 millions, 5 millions. Mais s'il y a un domaine, vous voyez, j'essaie d'imaginer cette parabole, le père il a dû vendre. Il a certainement dû vendre du terrain, il a dû vendre du bétail, il a dû vendre certainement de l'immobilier pour pouvoir donner à son fils. Et on a ce fils qui part et s'est marié. Quelques jours plus tard, le fils vendit ce qu'il avait reçu. Donc, vendit ce qu'il avait reçu. À mon avis, il n'a pas reçu de l'argent. Il a reçu peut-être des propriétés, des terres, mais il a quand même dû les vendre pour avoir un peu du cash. Et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant la grande vie. Tout, là, tout va bien. Il a du cash, il part dans un pays lointain, il mène la grande vie. Puis d'un coup, il y a un problème. C'est le texte que j'ai mis en gras. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. D'un coup, il vivait dans le superflu. D'un coup, il manque le nécessaire. Et d'un coup, il a fallu une famine. D'un coup, cette famine l'a confronté. S'il n'y avait pas eu de famine, je pense qu'il aurait encore pu continuer. Mais d'un coup, cette famine a été l'élément qui a forcé le fils à se poser des questions. À la fin du texte, « Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. » Je n'ai pas plus entre matière sur cette parabole, mais c'est intéressant. Jésus parle dans un contexte juif, parle à des juifs. Alors déjà, les porcs ne sont pas bien vus. Donc, ce fils d'un grand propriétaire se retrouvait là. Je dirais, c'est peut-être un peu comme maintenant, un peu un junkie qui est, je ne sais pas, à Lausanne, dans une ville, en train de mendier pour avoir sa cam, ou je ne sais pas, une situation voilà, qui est un peu impropre, impur. Garder les porcs, déjà être berger à l'époque, ce n'était pas valorisé. Donc berger, c'était vraiment le bas de l'échelle. En plus, garder, non pas des brebis, mais garder des porcs, c'est un peu le... C'est dessous le dessous. Et pourtant, il arrive dans une situation délicate. Mais c'est cette famine qui lui a ouvert les yeux, c'est cette famine qui l'a confronté, qui a mis un stop à son train de vie. Et maintenant, abordons aussi de notre propre vie, nous n'avons peut-être pas forcément une famine au sens propre, mais quelle est notre fin spirituelle? Est-ce que parfois, spirituellement, nous ne sommes pas aussi un peu dans une situation de famine? Nous n'avons rien à manger, les temps sont durs, les temps sont secs. On ne peut pas rester indéfiniment dans la situation actuelle. Il faut faire quelque chose. Tant les patriarches que le fils prodigue ont dû réagir. Ils ne pouvaient pas maintenir le statu quo. Nous avons vu hier, Dieu parle. Et c'est à nous de l'écouter. Quelle est notre fin pour Dieu? Est-ce que nous avons une fin pour Dieu? Est-ce qu'on désire? Est-ce qu'on recherche Dieu? Est-ce qu'on recherche sa parole? J'aime ce texte que l'on trouve dans le psaume 107. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Pour moi, ce texte revêt un peu les deux aspects. Je pense que le sens propre, ils avaient faim et soif, à quelque chose, je pense, d'humain, de physiologique. D'une certaine manière, il crie à Dieu. Et Dieu délivre aussi des angoisses, des problèmes de nos vies. Est-ce qu'on crie à Dieu? Est-ce qu'il y a une situation qui ne peut plus durer? Et on le voit aussi dans ce texte où Jésus le rappelle, ce texte bien connu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Oui, nous avons des besoins légitimes. Nous devons manger, c'est des besoins physiologiques qui sont propres à tout être humain. Jésus aussi a mangé, Jésus a eu soif. Jésus était aussi un homme comme nous. Mais Jésus parle aussi d'une nourriture spirituelle. Il y a une nourriture spirituelle, mais il y a aussi une faim spirituelle. Avons-nous faim de Dieu? Je rebondis sur ce que disait dans la présidence, mais est-ce que le matin, avons-nous faim de la présence de Dieu, que ce soit la prière, la lecture de la Bible, la louange? Est-ce que nous avons faim de l'actualité, faim des WhatsApp? Je ne rappelle plus des exemples que tu as cités, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous anime? Quand on jeûne, des fois on a faim. Donc on voit qu'il y a un manque. Il y a un manque. Des fois, moi, je réveille la nuit. Après, on a faim. Après, c'est de nouveau... Ça, c'est toujours intéressant. Après, le soir, tu as faim. Et tu ouvres le frigo, alors que tu es encore dans ta période de jeûne, donc tu te fais un peu envie. Tu ouvres ton frigo, et même le vieux morceau de je ne sais pas trop quoi qui traîne au fond du frigo, tout d'un coup, tu le regardes, tu dis, toi, tu finirais bien de mon estomac. Alors que cet aliment, il est là. Du coup, on n'a pas trop envie de le manger. Et de quoi on a faim? Puis, tout devient désirable. Enfin, je me pose la question, d'un point de vue aussi spirituel, mais il y a toujours des textes, peut-être bibliques, qu'on aime bien. Peut-être, est-ce qu'on a une faim spirituelle, ou même un texte, je ne sais pas, dans Jérémie, dans Ézéchiel, peut-être des ouvrages qu'on affectionne moins, qu'on met un peu de côté, d'un coup, ils deviennent désirables. D'un coup, on prend un texte biblique, puis on a une fin de la parole de Dieu. D'un coup, tout ce qui nous passe par là, sous la main, on le lit, on le dévore. Moi, des fois, ça m'arrive. Alors, j'ai toujours mes textes de prédilection, mes ouvrages de la Bible de prédilection, mais des fois, j'aime bien ouvrir la Bible au hasard, puis dire, OK, Seigneur, c'est ta parole. Parle-moi à travers ce texte, à travers ce chapitre. Alors, des fois, ça parle plus, des fois, ça parle moins, mais Dieu parle quand même. Même des fois dans des prophéties, dans Ézéchiel ou Ésaïe, puis dit, Seigneur, mais pourquoi ce texte est de notre Bible? Et d'un coup, il y a une fin, puis on lit un chapitre, puis d'un coup, l'appétit vient en mangeant. Et des fois, même aussi en lisant la Bible, en prenant du temps avec Dieu, il y a un désir qui vient. Et je trouve beau d'avoir cette faim spirituelle. De la même manière que quand on mange humainement, des fois, on n'a pas faim, puis d'un coup, on mange, puis tiens. Je me rappelle, c'était quand dimanche dernier, ou il y a 2 semaines, après l'Assemblée générale, qu'on a eu l'apéritif, j'avais pas très faim, et tout d'un coup, je regarde ce qu'il y a à manger, et là, tout d'un coup, l'estomac s'est réveillé. Mais c'est vrai, il y a tellement de belles choses, de bonnes choses à manger. Et je me dis, mais qu'en est-il de notre faim spirituelle pour Dieu, pour sa parole? Je vais un petit peu... avancer, comme ça, je le dernier essai, quelle est notre fin? L'exemple un peu, un lion qui mange une antilope. L'antilope devient lion. C'est vrai. D'une certaine manière, ce que l'on mange devient nous. Et Jean 6 dit que nous devons manger Jésus. D'une certaine manière, Jésus vient en nous. Manger, c'est incorporer quelque chose. Est-ce que nous nous nourrissons de la parole de Dieu? Est-ce que nous nourrissons de la prière? Est-ce que nous nourrissons de l'intimité, de la communion avec Dieu? Et si on regarde les évangiles, Jésus multiplie les pains, multiplie les poissons. Il y a une réalité physique, physiologique, les gens mangent. Après, il regarde les disciples, puis il dit, mais et vous, avez-vous mangé? Les disciples disent, oui, on a mangé. Mais ils ne comprennent pas ce que Jésus voulait dire. On le voit ça dans l'évangile de Jean. Il dit, mais je suis le pain de vie. Je suis le pain qui donne la vie. Les disciples n'avaient pas trop compris. Ils étaient restés un peu trop terre à terre sur le pain, nourriture comme ça, mais Jésus allait plus loin. Il y a une réalité spirituelle. De la même manière que Jésus dit, je suis les fleuves d'eau vive, je suis l'eau de la vie. De venir boire à Jésus, boire à la source, manger à la source. Et de nos vies, comment nous nous alimentons. Et c'est là que je reviens pour boucler la boucle. Où vas-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ma vie? Que je puisse manger, avoir cette communion avec toi, me laisser façonner par toi. Et cette semaine, nous aurons une semaine de jeûne et prière. Et pour moi, ce message est aussi une introduction. Que durant cette semaine, nous puissions aussi, je vous encourage, je m'encourage aussi à me priver de quelque chose de légitime, la nourriture, quelque chose de légitime, de bon, pour quelque chose de meilleur, pour une nourriture spirituelle. Puissions, durant cette semaine, manger Christ, boire Christ, vivre de Christ, avoir une nourriture spirituelle qui va nous remplir, comme dit ce texte de Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'une certaine manière, on a vécu hier, pendant les temps de prophétie, des paroles qui sortent de Dieu, qui nous nourrissent, qui nous fortifient. Et je crois que cette semaine, nous aurons aussi une nourriture spirituelle. Dans les rencontres, durant les journées, où Dieu va nous nourrir, va étancher notre soif, va nous apporter des réponses pour nos propres vies, pour l'Église, pour la société, pour notre travail, pour tous les domaines de notre vie. Et que ce sera un temps particulier. Je crois, je l'espère, que ce sera aussi un temps de révélation. Parce que Dieu parle. Et que nous pourrons aussi faire nôtre cette prière de Jean 17, avec laquelle nous allons cheminer durant cette semaine. Et pour terminer, j'aimerais qu'on puisse faire aussi quelques petits groupes, qu'on puisse aussi nous bénir les uns les autres. Je trouve que c'est aussi important. Ça sera la conclusion. Qu'on puisse aussi nous encourager à avoir une plus grande faim de Christ, une plus grande faim pour la parole de Dieu. Qu'on puisse réaliser que nous ne pouvons pas être à l'agonie spirituellement, même si ça se voit pas physiquement, que nous puissions aussi nourrir notre âme. Vraiment aussi nous bénir les uns les autres. Hier, j'étais interpellé de voir des gens de différentes églises. On s'est vraiment spontanément mis par différentes églises. C'était pas, on n'a pas eu besoin de dire « Mélangez-vous, mettez-vous pas toujours avec les mêmes églises. » Et puis, j'étais assez surpris. Je me suis dit « tiens, c'est vrai. » Bon, tout le monde s'est spontanément mis. Puis on a prié. On a aussi des moments un peu prophétiques où des gens, on peut partager ce sujet de prière, puis on peut parler, puis dire, ce qu'on a aussi ressenti, ce que Dieu met sur notre cœur, nous puissions aussi nous fortifier, nous encourager, parce que c'est vrai, nous sommes une communauté, nous sommes un corps, nous sommes une famille, nous avons besoin les uns les autres, nous avons besoin de nous encourager mutuellement, que nous puissions prendre à peu près 5-7 minutes. On peut finir à 11h. On peut faire des groupes. C'est égal le nombre. 2, 3, 5, 7. On peut faire un groupe là, les 4, 1, 2. D'Éphésiens, chapitre 3, versets 20 à 21. À celui qui, par la puissance qui a agi en nous, peut réaliser bien au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Bon dimanche.